Les pieds sur terre, Sonia Grönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Il ne se passe pas un mois, semble-t-il, parfois pas une semaine, sans qu'un nouveau scandale ou une sinistre affaire n'apparaisse au grand jour, impliquant un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, autrement dit un EHPAD. Le drame le plus récent s'est passé dimanche 31 mars. 5 résidents, âgés, ont été probablement victimes d'une intoxication alimentaire et sont toutes décédées dans un EHPAD privé au sud de Toulouse. Au chapitre des violences, le 22 mars, un aide-soignant, filmé début février en train de violenter une vieille dame de 98 ans, a été condamné à 5 ans de prison pour ces faits. Début mars, un article du Monde révélait également que les personnes homosexuelles rencontrent des graves difficultés à vivre leur sexualité en EHPAD. En octobre dernier, pour finir sur le terrain des libertés d'expression, une salariée a été licenciée pour avoir témoigné des conditions de vie et de travail dans son établissement. En janvier dernier, une grève inédite des personnels soignants avait été largement soutenue par les familles des résidents et la ministre de la Santé a promis d'injecter 360 millions d'euros supplémentaires pour recruter du personnel entre 2019 et 2021. Mais la situation ne semble guère s'être améliorée pour l'instant. Il faut savoir qu'un EHPAD, il y en a environ 7000, peut-être public, associatif ou privé à but lucratif. Mais dans tous les cas, c'est l'État et le Conseil général qui fixent les prix et qui financent seulement à hauteur d'un tiers. Et ce sont les résidents qui paient le reste. Les établissements sont donc soumis à des exigences de rentabilité, d'économie, ce sont des entreprises. Aujourd'hui donc, nous nous intéressons à cet aspect du problème, à l'argent des soins, au taux de remplissage, au prix de la viande, au poisson le moins cher, bref, à ce que notre mauvaise santé coûte aux uns et ce qu'elle rapporte aux autres. On commence dans un EHPAD avec un ancien directeur qui parle chiffres et va dans les détails, suivi d'une histoire fort étonnante autour d'une opération filmée et fort rentable probablement. De récits évidemment racontés par Valérie Borst.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Jean Arcelin, j'ai 53 ans. Je suis diplômé de Subdeco Paris et j'ai fait donc toute ma carrière dans l'automobile. Donc j'ai travaillé pour Mercedes-Benz France pendant 17 ans. Donc j'ai encadré, je suis devenu directeur de succursale, chef des ventes, etc. J'avais bien sûr cet objectif commercial et puis je voulais gagner. Mais quand une entreprise gagne, elle gagne de l'argent. Et ça a vraiment fonctionné. À Longchamp, par exemple, on avait triplé le volume de vente en 2 ans. C'est un record des ventes qui, à ce jour, n'est toujours pas battu.
Qui est de, pour se faire une idée?
De 13 400 voitures par an, dans les marques Chrysler, Jeep, Dodge. Vous êtes content. Voilà. Disons qu'on ne me voyait pas trop venir, moi. J'étais un peu le discret, un peu le lisse, un peu le... Celui qui ne faisait pas de vagues, je ne parlais pas beaucoup, mais j'agissais. Et j'avais commencé à faire du bénévolat. Quand ma grand-mère est décédée en 2004, c'est là que j'ai commencé à faire du bénévolat en maison de retraite. Pour lui rendre hommage et aussi pour garder ce lien que j'avais qui me faisait du bien, en fait, aux personnes âgées. Et j'ai fait simplement, j'animais le loto toute la journée, je déjeunais avec les résidents. J'ai fait ça 3 ans. Et ensuite, j'ai décidé de poser ma candidature pour être directeur d'EHPAD. Mon diplôme de Subdeco me permettait ça. Je connais rien en médico-social, je suis pas du tout soignant, donc moi je connais l'encadrement des équipes, mais j'ai eu 3 entretiens assez facilement. Je commence dans un établissement semi-public dans le Var, assez tranquille, assez familial, 65 résidents au bord de la mer... était tout le temps plein parce que le tarif était pas cher du tout puisque c'était 1 700 euros, c'était un tarif de service public. Donc il y avait une liste d'attente d'une 20aine de personnes, tout le temps plein. Mais je suis confronté directement à cette nécessité de faire des économies. Donc je pensais pas qu'on ait déjà cette contrainte financière très très stricte. Je m'approche de l'équilibre quand même. en faisant des économies, mais qui n'ont pas d'incidence sur le mode de vie des résidents, des économies de lumière, par exemple, d'EDF. Je sais que la maison de retraite est allumée 24 heures sur 24, donc on fait des choses comme ça. Et tout se passe bien, puis il y a une dernière épreuve, c'est la certification ISO. Pour chaque activité, que ce soit la cuisine, l'animation, etc., vous devez avoir une procédure, vous devez être capable de certifier que vous faites bien les choses. Un auditeur vient, passe la journée chez vous, dans l'EHPAD, et pour chaque activité de l'EHPAD, il vous demande la procédure. Et donc, on a un retard assez conséquent, et là, clairement, je bidonne, voilà, et je triche. On fait des copier-coller, j'écris certaines choses, on fait des dossiers, quelques dossiers parfaits, mais comme l'auditeur, je sais qu'il ne regarde que la date et le numéro de la note, qu'il ne va pas lire le contenu, parfois je fournis la même note avec des dates différentes. Et il y a un contrôle dans les chambres sur les appels malades, ce sont des sonnettes qui sont dans les chambres, il veut qu'on fasse un contrôle et je tremble un peu parce que les appels malades ne fonctionnent pas toujours tous. Et on arrive dans une chambre qui est vide, il appuie sur l'appel malade, et moi, en tournant le dos, j'envoie un SMS à mon infirmière en disant « sonnette, chambre 29 ». Voilà. Et donc, Annie arrive en courant, et il est tout à fait bluffé par la réactivité de l'infirmière. Et finalement, donc on est certifié, non seulement on est certifié, mais on a une excellente note à l'audit ISO. Et comme tout s'est bien passé dans cette EHPAD pendant 6 mois, suite à la visite de la directrice générale qui voulait voir ce que je donnais, là on me propose de gérer un établissement beaucoup plus grand, qu'on appelle en interne un gros bateau, de 120 lits, totalement privé cette fois, avec des tarifs libres, donc dont la moyenne se situe autour de 3000 euros, à Cannes, et 2 EIG à traiter. Alors un EIG, c'est un événement indésirable grave. Ça veut dire que dans cette EHPAD, il y avait eu un EIG, moi, qui m'a effrayé. De quoi il en retournait? C'est une résidente qui avait des escarres. Les pansements d'escarres doivent être faits tous les 2 jours et ils n'ont pas été refaits parce que l'équipe était en burn-out ou surchargée de travail ou en sous-effectif. C'était l'été, des mouches sont rentrées dans la chambre, ont pondu des œufs dans les escarres de cette pauvre dame et des vers se sont mis à grouiller dans ces escarres, entraînant une surinfection, une septicémie et un décès. Donc c'était quelque chose de grave et je devais, donc le directeur précédent avait jeté l'éponge, et je devais, moi, affronter la famille, ça venait de se passer. Je me rends aux obsèques, et là, je suis viré par un membre de la famille qui reconnaît que je suis directeur de la maison de retraite, même si je n'ai rien à voir avec cet accident. Et donc, je rencontre cette famille, et c'est vrai que là, j'emploie mes capacités d'écoute, etc. Puisqu'on me donne ça un peu comme un challenge, on me dit, voilà, si tu réussis à calmer la famille, ce sera formidable, pense à l'image de cet établissement qui est maintenant sous ta responsabilité, etc. Et j'y arrive. Un décès, c'est un résident en moins. Voilà, on est à moins un. C'est une des choses qui m'a frappé, marqué, c'est l'appréhension dans le médico-social de la mort comme un élément commercial. Et donc un décès, c'est un taux d'occupation qui chute. Le taux d'occupation est de 80%, ce qui est pas du tout bon pour un EHPAD. Donc vous avez 24 chambres vides. C'est à 3000 euros la chambre, ça fait quand même 72 000 euros par mois. Fois 12, ça fait donc presque 800 ou 900 000 euros par an. Donc, vous avez vraiment, il y a urgence à être à 100%. Et, en clair, si je gagne moins, je dois dépenser moins. C'est-à-dire, tous les postes de dépenses sont revus. Les protections, les fournitures, les pansements, tout ce que l'EHPAD doit acheter doit être calculé au plus près, revu à la baisse. Alors le budget alimentation, je dispose de 4,35 € par résident par jour. Donc 4,35 €, c'est donc petit déjeuner, déjeuner, goûter, dîner, collation compris. Donc Ça fait des repas à peu près un peu plus d'un euro. Je dois faire des économies sur l'eau minérale. Et je dois les supprimer pour remplacer par des carafes d'eau du robinet. Je dois remplacer une baguette que j'avais négociée à 40 centimes par un pain industriel, qui est vraiment le niveau zéro de la boulangerie, quoi. Voilà, nous utilisons à 90% des produits surgelés. Les morceaux de viande sont des morceaux qui ne sont pas nobles. Et puis il y a le fameux hoki. Et le hoki, c'est le poisson le moins cher du monde. Et c'est dégueulasse. Et ce qui se passe, c'est que pour toujours remplir mon EHPAD, je démarche. Alors là, je reprends ma sacoche de commercial. Je vais voir toutes les assistantes sociales. Je fais des mailings. Je fais venir un orchestre. Je fais une animation avec des animaux de la ferme. Je me démène, en fait. J'organise même moi-même, puisque on manque de moyens pour l'animation, des animations. La commercialisation progresse. Mais ça veut dire que je vais passer assez rapidement au-dessus de 90% de d'occupation. Donc on n'est plus dans le rouge, on passe à l'orange. Mais on doit quand même viser le vert. Le vert, c'est 100%. Je voulais réussir. Et ce qui se passe au bout d'un an et demi, c'est que j'ai un événement indésirable grave. Quand on reçoit un résident, on a un dossier d'admission avec des différents critères médicaux. Et cette femme a des antécédents psychiatriques avec agressivité plus. Je fais un entretien d'admission. Son mari étant totalement désœuvré, ne trouvant pas de place, nous le soupçonnons, moi et mon infirmière, mais a posteriori, de l'avoir shooté, c'est-à-dire d'avoir administré à son épouse une dose de neuroleptique pour qu'elle soit totalement calme pendant l'entretien. C'est une femme plutôt élégante, mais qui me regarde très bizarrement. J'hésite, ce monsieur me rappelle, me relance, et donc je fais un essai de quelques jours. Et je suis pas loin, je crois que je suis à 97, je suis à 3 ou 4 résidents de 121 résidents. Donc je suis plutôt content, et dès le deuxième jour, je crois, cette femme commence à tirer des cheveux aux dames, à griffer, et bref, le troisième jour, on la garde en chambre, sachant qu'on ne peut pas verrouiller les chambres, donc on fait ce qu'on peut avec le personnel que l'on a. Cette femme prend l'ascenseur, descend au rez-de-chaussée, et elle se jette littéralement, peut-être parce qu'on l'a conservée en chambre alors qu'elle ne voulait pas y rester, fait une crise. Et elle se jette sur une résidente qui était en grande dépendance, qui était très âgée, et lui arrache une partie de la bouche. Et on a dû être à 4 pour la détacher de cette pauvre femme qui est décédée quelques jours après. Je ne reporte pas cette EIG à ma hiérarchie. Je n'informe pas ma hiérarchie de l'agression. Parce que je me dis, si je déclenche une procédure EIG, là je suis viré demain. Voilà. Et je ne le fais pas. Je ne le fais pas, je crois que j'ai honte. Je crois que j'ai honte. Voilà. Je reste sans voix. Je crois que c'est peut-être la première fois où je reste sans voix dans ma vie. Le médecin m'arrête un mois et je ne suis jamais retourné dans cet EHPAD. Je ne suis jamais retourné au Palmier d'Or.
Je m'appelle Christine, j'ai 56 ans, j'ai une entreprise de design et j'habite en région parisienne. Cette histoire commence par des douleurs. Au mois de mars 2016, j'ai des douleurs au flanc gauche. Je finis par passer un scanner qui effectue un calcul rénal à gauche, un calcul de 1,4 cm, et qui me fait consulter à l'hôpital Thonon, puisque cet hôpital avait une réputation d'être spécialisé dans le traitement des calculs. Donc j'ai été reçue par le docteur T, une jeune femme qui a vu très rapidement quelle était la solution pour enlever mon calcul de la manière la plus efficace et la plus rapide possible. Elle m'a recommandé ce qu'on appelle une urétroscopie souple. On introduit une sonde par les voies basses. C'est ce qui paraît le plus indiqué. Donc une dizaine de jours après, je reçois l'appel d'un médecin qui me dit qu'après avoir revu avec une équipe en staff mon calcul, mes images, l'équipe a décidé que le calcul était trop gros, le calcul était trop dense pour être enlevé par les voies naturelles, par une urétroscopie souple. Je me dis que s'ils ont regardé à ce point mes images et mon calcul, c'est que c'est vraiment une équipe très sérieuse et que la réputation n'était pas usurpée, parce que j'ai jamais eu un chirurgien qui m'appelait comme ça sur mon portable. Le médecin me dit qu'il va m'opérer lui-même le 31 mai, que cette date est impérative pour faire cette intervention, parce que c'est lui qui fera cette intervention. En gros, j'ai pas le choix. Pour moi, j'ai pas le choix. La seule chose, je me souviens quand même que j'ai mis en garde contre le fait que, surtout, j'espérais que c'était pas quelque chose qui faisait souffrir, parce que j'étais résistante à la morphine, que j'avais pas de rate. Et à ce moment-là, il m'en dit pas beaucoup plus que simplement c'est une petite incision sur le côté et c'est beaucoup plus simple et vous serez remis sur pied en 48 heures. Lorsque je viens à l'hôpital Thonon le 30 mai, la veille de l'intervention, le docteur passe me voir rapidement pour se présenter, parce que je ne l'ai jamais vu, je l'ai eu juste au téléphone, pour me dire, voilà, je vous opère demain, on viendra vous chercher en début d'après-midi. Et là, il me dit, comme on fait rentrer une petite caméra dans votre corps, pour viser le calcul, il vous faut signer ce papier, parce que parfois, ils en font comme un petit outil pédagogique sur comment un laser explose le calcul. Et l'attendu comme ça, entre deux phrases, c'était une formalité par rapport au geste chirurgical. En fait, le lendemain, ils viennent me chercher relativement tard, ce qui est un peu surprenant. Je suis descendue donc au bloc, et à l'arrivée au bloc, j'ai trouvé qu'il y avait une effervescence particulière, il y avait beaucoup de monde, et je vois les portes d'un bloc devant moi qui sont restées ouvertes, parce qu'elles sont gênées par des crocs fils électriques qui sont tenus avec des gaffeurs, des bouts de scotch. Je me rends compte qu'il y a des caméras dans ce bloc. Je commence à trouver ça, mais très, très étrange. Donc sur le coup, je me suis dit, ils se sont trompés de bloc. Là, un médecin arrive avec les mains en l'air, ce qui signifie que c'est lui qui va m'opérer, parce qu'en général, c'est le fait que les mains soient stériles qui fait qu'il les tienne, il touche absolument plus à rien à partir de ce moment-là. Il s'approche de moi, il voit mon effroi, et là, il me parle avec un accent italien, comme Georges Clooney dans, vous savez, dans la pub pour le café. Il me dit « Bonjour, je suis Guido Giusti, je suis votre chirurgien. » Là, je vous avoue, je ne comprends plus rien, parce qu'il y a des caméras, il y a un acteur. J'ai hyper peur à ce moment-là. Et je demande, je veux voir mon chirurgien, vraiment dans un cri d'effroi. Et là, on m'anesthésie. Je me réveillerai quelques heures plus tard, en ayant une impression, mais horrible, de pas comprendre ce qui m'est arrivé. J'ai des diarrhées, je me sens hyper mal et je comprends pas ce qui s'est passé. Et on me remonte dans le service. Là, à peine on m'effleure un drap sur le ventre, je sursaute de douleur tellement c'est intolérable. Le médecin qui est chef de ce service, le professeur Xer, touche un tout petit peu mon ventre qui est très dur et il dit tout de suite « Ah là, il faut passer un scanner ». Là, je lui demande si la douleur que j'ai, elle peut être en rapport avec le fait qu'on m'a enlevé la rate. Je sens qu'il a un moment de stupéfaction. Et là, je mesure que ce professeur qui dirige ce service, il a l'air d'être complètement surpris sur le dossier qu'il n'a pas l'air de connaître. Finalement, ma fille demande l'autorisation de venir me rejoindre et me dire un petit mot, me faire un petit bisou. Et là, je lui dis, chérie, j'ai été opérée par un médecin italien qui s'appelle Guido Giusti. Elle cherche sur son téléphone Guido Giusti, urologue. Et là, elle tombe directement sur le Twitter de Guido Giusti. Et elle trouve les dernières publications avec des photos. Et avec en légende de ces photos, Hôpital Tonon, on voit une photo de lui où il a écrit sur son bonnet « Mini percute, yes, please », qui est le nom de mon intervention. L'heure qui correspondait exactement à l'heure où j'étais au bloc. On va pas reconnaître mon visage parce que je suis gisante sur un lit d'intervention. Mais en effet, on voit des photos du bloc avec un lien sur Internet vers un challenge in endo-urologie. Donc on clique sur ce lien. On tombe sur le site d'un événement programme qui a lieu à Paris, à l'hôtel Marriott. Avec 700 invités venus du monde entier qui sont du monde de l'urologie. Je ne comprends pas, ma fille non plus. Ou alors, petit à petit, on comprend, mais on est complètement incrédule de constater que j'ai été pris comme cobaye, on ne peut pas dire autre chose, à mon insu, de cette intervention. C'est tellement incroyable de se dire que tout ça, ça arrive au sein de la PHP, l'hôpital public, que c'est vrai que ça nous laisse sans voix. Ensuite, lorsque ils passent le scanner, ils vont s'apercevoir que lors de l'intervention, ils m'ont perforé le côlon. Qu'ils vont essayer de laisser ouvert la plaie et ne pas mettre d'anus artificiel pour m'éviter ça.
J'étais en soins intensifs clouée à cause de leur négligence, de leur, manipulation aujourd'hui. Et ça, je leur en veux plus que tout.
Quand je sors de l'hôpital, au bout de 6 semaines d'hospitalisation, j'enquête, j'essaye de comprendre. Je passe du temps sur ce site du challenge. Je découvre que ce challenge, en fait, est un multi-show avec des opérations médicales en direct, des blocs. En l'occurrence, là, on était au bloc de Tonon en direct pour plusieurs interventions dans la journée. Il y a aussi comme des stands, des sponsors qui sont là pour faire du business. Vous avez 700 personnes qui sont susceptibles d'utiliser tous les matériaux qui ont été en démonstration dans les blocs opératoires mis en avant par ces chirurgiens. Derrière, c'est le moment de passer commande. Donc, ces challenges ont cette fonction. On informe, on forme, on fait du partage d'expériences. Et ensuite, on signe des chèques. Et je suis sidérée. On a utilisé mon corps comme un objet à des fins de business, en fait. Il fallait trouver quelqu'un pour faire cette démo. Je m'interroge sur ce qu'ils ont vu, vraiment. Est-ce qu'ils m'ont vu nu? Est-ce qu'ils m'ont vu dans des positions... Voilà, qui montre complètement mon corps. Enfin, j'ai l'impression d'avoir été exposée comme un animal de foire. Et là, je demande à avoir mon dossier médical au complet, le dossier médical, la vidéo, et quelle ne fut pas ma surprise de voir un rapport d'intervention avec noté comme opérateur le docteur Z. Donc ce jeune chirurgien qui s'était dit mon opérateur au tout début. J'aurai un deuxième rapport d'intervention après avoir insisté en envoyant une lettre recommandée, où là, tout à coup, ce sera Guido Giusti en collaborateur. Le Conseil national de l'Ordre des médecins a reconnu que, en effet, ce médecin, Guido Giusti, accueilli à la PHP pour cet événement en fanfare, hein, puisqu'on communique sur son nom, n'est pas inscrit à l'ordre. C'est de l'exercice illégal de la médecine, avec en plus une personne qui est filmée à son insu dans le cadre d'un hôpital public. Je n'ai pas obtenu la vidéo qu'on a retransmise, qu'on a enregistrée. Donc, c'est une hérésie, c'est incroyable que la justice n'ait pas encore demandé à ce que cette vidéo soit produite. Aujourd'hui, la version officielle, c'est qu'il n'y a pas eu de vidéo parce qu'elle n'a pas été enregistrée. Je n'y crois pas une seconde.
Je dors bien planqué là-bas, loin des villes jetées de tous bords où la lumière.
C'était Notre mauvaise santé vaut de l'or, un reportage de Valérie Borst réalisé par Cécile Lafont. Merci à Jean Arcelin, à Christine et à sa fille Laureline et à Corinne Chauvel, documentaliste à Radio France, et Jeanne Delecroix, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et Zoé Marie Roulier, notre stagiaire.
Tandis qu'en silence je dors, ceux qui marchent au pas passent d'étranges accords, de l'argent dans la voix.